Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Miss France, vous êtes là. Alors j'aimerais que, pour ceux qui n'étaient pas là au départ et qui n'ont pas entendu votre présentation, qui êtes-vous, Miss France ?
Alors je m'appelle Diane Lair, j'ai 24 ans, je représentais notre belle région d'Île-de-France ce soir. Et c'est vrai que ça fait bizarre, vous venez de m'appeler Miss France, je ne suis pas encore prête à ce nom.
Beaucoup d'émotions pour la nouvelle Miss France samedi dernier, sans doute liée à la présence à ses côtés de Jean-Pierre Foucault pour sa 27e cérémonie, une Miss qui lui donne l'illusion de ne pas vieillir, a-t-il confié récemment au magazine Gala. Miss France a pourtant plus de 100 ans, dont plus de 35 révélés en direct à la télévision. Le programme intemporel continue de séduire les téléspectateurs contre vents et mitoux. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast des Échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour évoquer et analyser un fait de l'actualité économique, sociale ou médiatique. Aujourd'hui, on va s'intéresser avec Marina Alcaraz au phénomène des Miss qui défient le temps.
Miss France 2022 est et restera Miss Île-de-France.
Des paillettes en or, des robes de princesse, une couronne, un bouquet de roses et le plein de sourires. Ce n'était pas un nouvel épisode de Sissi Impératrice, mais l'élection de Miss France, diffusée samedi 11 décembre sur TF1. Plus de 7 millions de spectateurs ont assisté au sacre de Miss Île-de-France devant sa dauphine Miss Martinique et les 27 autres prétendantes. Bonjour Marina Alcaraz.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au service high-tech média des Échos. Vous étiez devant votre écran samedi ?
J'étais devant mon écran samedi, justement, parce que je savais que je préparais une enquête sur le sujet. Donc oui, j'étais devant mon écran avec mes enfants.
Supportrice de Miss Provence ?
Supportrice de Miss Provence, j'avoue. Et supportrice de Miss Réunion.
Pourquoi ?
Oh, je trouvais qu'elle était très dynamique, elle donnait envie d'être connue, cette jeune femme-là.
Alors, en tout cas, le genre de discussion qu'on peut avoir en regardant le programme Miss France, qui est un programme très regardé à la télévision, on va en parler. Mais je me pose quand même une question. Comment est-ce qu'on devient Miss France en 2021 ?
Alors, ce n'est pas si facile que ça de devenir Miss France. Déjà, moi et la plupart de nos auditeurs, je pense, sont hors concours, puisqu'il faut avoir 18 et 24 ans, enfin être jeune, être célibataire, enfin du moins ne pas avoir été marié ou paxé, ne pas avoir d'enfant. Il faut aussi faire plus d'un mètre 70 et il y a un certain nombre de règles d'élégance, par exemple ne pas fumer en public, si on boit d'alcool, le faire modérément, etc. Une fois qu'on est dans ces critères-là, il y a toute une sélection au niveau local, régional, c'est-à-dire on passe plusieurs épreuves successives. On est d'abord Miss de sa région, d'où Miss Provence, Miss Languedoc-Roussillon, Miss Île-de-France, qui a été elle élue Miss France. Et ensuite, il y a au niveau national donc cette fameuse soirée Miss France. Alors nous, à la télévision, on ne voit que la soirée, mais il faut voir que derrière, il y a toute une sélection, c'est-à-dire qu'il y a un pré-jury qui se réunit quelques jours avant le grand show qui a lieu samedi soir et qui choisit 15 Miss, les 15 Miss qui vont rester après une coupure publicitaire en fait, et qui vont être présélectionnées. Alors là, elles sont sélectionnées sur un certain nombre de critères que nous, on ne voit pas. Alors ça va être l'élégance, mais aussi leur esprit de camaraderie, également leur intelligence. Je veux dire, moi, on m'a dit clairement, enfin, de bons connaisseurs m'ont expliqué qu'une certaine jeune femme qui était, par exemple, très jolie mais peste, ne pouvait pas passer. Et c'est là où il y a le fameux test de culture générale. Je l'ai testé et c'est pas si simple que ça. Enfin, on mélange des questions d'actualité, des questions géographiques et historiques. Par exemple, comment se nomme la dernière mission de l'astronaute français Thomas Pesquet ? Par exemple, comment ça écrit atterrir ? Faut-il un T, deux verres ? Deux T, deux verres ? Je vous laisserai regarder chez vous. Où se situe le Parlement européen ? Les accords de Schengen correspondent à quoi ? Ou la Convention de Genève de 1951 ? Que vous dire ? Il y a aussi des questions de maths. C'est tordu, par exemple. Je vous en dirai une, parce que je l'ai trouvée assez drôle. Si 1 est égal à 5, 2 est égal à 25, 3 égal à 605, 4 à 1855, D'accord, vous calculez. 5 est égal à quoi ?
Bah c'est sûr, moi je serai jamais Miss France. Hein. J'ai toujours été meilleure avec les lettres qu'avec les chiffres. Devenir Miss France, d'ailleurs, on l'a entendu, hein, c'est tout un parcours pour obtenir la couronne. Mais au fait, Marina, à qui appartient Miss France ?
Miss France est une société qui appartient au groupe Banijay. Banijay, le géant mondial de la production télévisée qui avait racheté Endemol Shine en 2019, qui avait jusqu'à présent le concours Miss France. Et c'est une petite société, hein, 5 collaborateurs, qui organise en fait Miss France avec l'appui, bien évidemment, de Banijay.
Bon là, les filles, on va arriver sur le marché de Noël. Vous avez vu, il y a quand même pas mal de monde qui sont là pour vous accueillir. Vous êtes très charmantes, on vous dit.
Ah, merci beaucoup.
Bon, qui aime manger ici ?
Marina, vous vous êtes rendue à Caen, où vous avez pu assister à la mise en jambe des Miss. Comment se passent les répétitions ?
Alors, tout est minuté, répété. Les Miss sont coachées pendant une bonne quinzaine de jours, justement, puisque certaines n'ont jamais vraiment dansé. Hein. Il faut apprendre à danser sur scène devant des millions de téléspectateurs. Le moindre faux pas, eh bien, c'est le buzz assuré, mais le buzz négatif assuré. Elles se préparent jusqu'au bout. Il y a une chorégraphe qui leur explique tout. Et c'est vrai que c'est assez bluffant de voir ces jeunes femmes. Vraiment des jeunes filles, hein. On sent carrément qu'elles sont jeunes en fait, on les voit vraiment jeunes, surtout sans le maquillage, sans les robes, etc. Devenir des véritables pros dès qu'elles montent sur scène. Et toutes m'ont dit, enfin pas toutes, mais en tout cas celles avec qui j'ai discuté, elles m'ont toutes parlé justement de leur peur de tomber, la peur justement de ne pas savoir marcher avec des talons, la peur de se tromper dans une danse, etc. Donc vraiment pour elles, ça avait l'air d'être pas du tout naturel de monter sur scène, ce qu'on comprend également.
Ouais, elles savent qu'elles vont être scrutées.
Elles savent qu'elles vont être scrutées, bah, c'est ça un petit peu Miss France, c'est-à-dire qu'on sait qu'il va y avoir un énorme buzz sur les réseaux sociaux, on sait qu'on va être regardé par des familles entières ou des bandes de copains, de copines qui vont dire « Regardez, celle-là, elle a un joli sourire » ou d'autres « Elle n'a pas un joli sourire, elle a de belles jambes » etc, etc. Et donc, il y a vraiment un culte de l'image derrière tout ça. Par exemple, je voulais faire des photos. On m'a dit, non, pas celle-là. On voit que les Miss ont mis des chaussettes, par exemple, sous leurs magnifiques talons.
Ah, et la chaussette à talons, on n'est pas loin de la faute de goût de la claquette chaussette. Avant quand elles ont vécu quelques jours à La Réunion pour des séances photos, mais aussi des cours d'éloquence, de démarche ou de savoir-vivre. Rien n'est laissé au hasard, Marina. La production fait très attention aux détails.
On fait extrêmement attention à tout. Tout est minuté, tout est vraiment entouré. Et par exemple, les jeunes femmes sont gardées, entre guillemets, par des chaperons. C'est-à-dire des chaperons qui les accompagnent partout. C'est deux chaperons, dont une qui est une prof de yoga le reste du temps. Elle les accompagne partout. Et quand j'ai posé la question, justement, en me disant « Est-ce que ces jeunes femmes, des fois, elles n'ont pas envie un peu d'indépendance ?» On m'a dit « En fait, la question ne s'est jamais posée. » C'est-à-dire qu'elles sont tout le temps en groupe, pendant à peu près un mois, elles sont tout le temps en groupe, encadrées par des chaperons. Et ça va très très loin. Par exemple, je les ai vus demander, en train de dire « on va aux toilettes » et un agent de sécurité les accompagnait pour aller aux toilettes, en répétition.
C'est une organisation là aussi gigantesque.
C'est une organisation gigantesque. Il y a environ 250-300 personnes qui vont travailler le jour de la soirée Miss France et la veille. Donc c'est vraiment une organisation gigantesque avec énormément de travail puisque des décors sont faits exprès sur l'occasion qui vont paraître réutilisés. Vous imaginez, vous avez vu les costumes magnifiques qui également ne vont pas être réutilisés. Enfin, je veux dire, ils sont quasiment faits sur mesure pour cette soirée-là. Donc, c'est vraiment une organisation qui s'évapore dès le lendemain, peut-être par rapport à d'autres émissions où on réutilise des décors, des costumes, etc.
Qu'est-ce qui motive les candidates ?
Alors, j'ai envie de vous dire, bien évidemment, le prestige, la couronne. Enfin, toutes, elles ont envie de cette couronne. Hein. Il y a toute cette dimension challenge. La plupart des candidats avec qui j'ai discuté, toutes m'ont dit vouloir se dépasser. En plus, en année post-Covid, il y avait vraiment cette volonté de se challenger, de se dépasser, montrer qu'on était capable, finalement, d'être présentable, d'avoir un discours cohérent et d'être capable de se présenter devant des millions de téléspectateurs. Et après, c'est une année de rêve pour elles. Hein. Je veux dire, elles sont payées comme des cadres sup. Sylvie Tellier parlait il y a quelques années d'à peu près 5 000 euros mensuels, quand même. Hein. Elles sont logées, elles sont couvertes de cadeaux, une voiture, des bijoux, des sacs, elles voyagent. Vraiment, il y a quand même cette volonté aussi d'avoir une année un peu de princesse, il faut être honnête. Après, elles ont toutes aussi des messages à faire passer. Alors, pour des associations, pour la volonté de mettre en avant certains aspects de leur personnalité. Et il y a également tout l'aspect tremplin. Enfin, je veux dire, clairement, ces jeunes femmes, elles viennent de province, de villes ou des villages sans forcément avoir de réseau hein, à Paris ou forcément de réseau médiatique. Donc, grâce à ce concours de Miss France, elles se font connaître. Elles connaissent énormément de monde. Elles ont un réseau formidable. Regardez, par exemple, Sophie Tellman a fait la télévision. Sonia Roland est devenue comédienne. Et le Duc Gossuin est devenue animatrice. Alors, on va voir ce que va devenir Diane Lair, hein, la Miss France de cette année.
Et c'est la première francilienne élue depuis 1996. Elle est fan du PSG et de boxe. Elle a 24 ans, elle est diplômée en commerce international, elle mesure 1m77 et elle a déjà créé sa propre marque d'accessoires de sac à main, Oana Paris. Elle a déjà du vécu. Mais Marina, devenir Miss France, est-ce que ça change la vie de ces jeunes filles?
Mais complètement. C'était des jeunes femmes qui, comme je le disais, n'avaient pas forcément un réseau, qui n'avaient pas forcément les connaissances. Grâce à ça, elles peuvent rentrer dans un nouveau monde pour elles. Elles vont pouvoir faire de la télé, elles vont pouvoir faire de la radio. Elles vont voyager dans tous les pays. Elles vont parler avec des gens avec lesquels elles n'auraient jamais parlé. Donc oui, clairement, ça change leur vie. Et d'ailleurs, Sylvie Tellier a créé une agence qui s'appelle Talent Lab, qui peut gérer la carrière des Miss et les aider tout au long ensuite de leur vie à avoir des petits jobs en quelque sorte, hein, de prestations, de mannequinat, de présentation. Et elle est très fière, m'a-t-elle dit, de s'adapter aux Miss. Par exemple, il y avait une jeune femme qui faisait des études de médecine, elle a pu devenir médecin tout en ayant des petites prestations de mannequinat ou de présentation ou de représentation. Donc, c'est vrai que c'est des belles histoires et c'est beau de voir ça.
Beaucoup de ces candidates sont encore étudiantes en ingénierie, en médecine, en comptabilité, en marketing ou en communication. Je précise tout de suite que ce ne sont pas elles qui manient la perceuse que l'on peut entendre derrière Marina. Il y a des travaux aux Échos. Je vous prie de nous excuser. Pour la peine, je vous invite à aller lire le papier de Chloé Mario sur les EcoStart. Chloé, qui a rencontré des étudiantes qui lui ont raconté leur vie d'après le concours des Miss. Pour certaines, cela n'a pas été simple de reprendre les études, mais ça a souvent été un tremplin. Même si l'on ne gagne pas, on apprend à s'exprimer en public, à prendre confiance en soi, à vivre en communauté. Des compétences qui peuvent être utiles dans le cadre professionnel, a confié l'une d'elles aux EcoStart.
Miss Alsace, Miss France, 87.
Miss France, 1987, huée. Mais pourquoi donc ?
Le 31 décembre 1986 se déroulait la première retransmission télévisée de l'élection de Miss France 1987, une émission présentée par Guy Lux. Vous avez entendu cette archive de Lina, la pauvre Miss Alsace, Nathalie Marquet, la future Madame Pernaut est tuée. Vous vous souvenez d'ailleurs pourquoi, Marina ?
Eh bien, à l'époque, c'était vraiment un cafouillage. C'était le premier gros direct de Miss France. Il y a eu vraiment un énorme cafouillage. Ça se passait entre France 3, FR3 à l'époque, hein, pour ceux qui ont connu, pour les plus de 20 ans, et Europe 1. Et c'est Europe 1 qui a annoncé les résultats au présentateur Guy Lux. Et apparemment, la standardiste d'Europe 1 s'en mêlait complètement les pinceaux avec les noms des candidates. Elle a appelé la première dauphine pour Miss France, puis la deuxième. Enfin, vraiment, ça a été un cafouillage permanent sous les huées du public.
Qu'est-ce qu'elle a, notre Miss ? Elle se fâche là-bas. Une Miss proteste. Elle dit que pourtant, pour la première fois, c'est le public qui vote. C'est personne d'autre.
Alors, ça n'a pas dissuadé les télés de continuer. Miss France, c'est un moment de télé important pour le diffuseur de l'émission.
C'est un moment extrêmement important puisqu'en termes d'image de marque, on véhicule des valeurs positives. D'abord, on fait rêver les jeunes et les petites filles, donc c'est extrêmement important. Et puis, en termes d'audience, ce sont des audiences extrêmement importante. On est sur une audience, par exemple, samedi, de 7,3 millions de téléspectateurs. On est dans le top 3 des audiences de divertissement chaque année, ce qui est énorme. Il faut bien comparer ça, par exemple, un prime classique de TF1, c'est à peu près 5 millions de téléspectateurs, donc on est quand même largement au-dessus. On n'est pas à des niveaux de finale de gros matchs de foot, certes, mais on est quand même sur de très, très, très gros primes. Donc, c'est vraiment des émissions très regardées. Et surtout, ce sont des émissions regardées par les jeunes. Ce sont des émissions qu'on regarde en famille. Et ça, c'est extrêmement important, cette écoute conjointe. Parce que certes, les chaînes de télévision essayent d'avoir les fameuses ménagères de moins de 50 ans, qu'on appelle aujourd'hui les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, mais également les jeunes qui désertent à la télé, comme on le sait par ailleurs. Et là, Miss France, c'est un des programmes les plus jeunes d'être à la télévision cette année. Par exemple, 76% du public de 15 à 24 ans devant leur télé, à ce moment-là, ont regardé Miss France. énorme. C'est énorme et surtout, c'est une augmentation. Parce qu'il y a une décennie environ, on était autour de 40-45% à peu près.
C'est-à-dire que les jeunes s'intéressent beaucoup à ce spectacle des Miss.
Les jeunes s'intéressent beaucoup à ce spectacle des Miss. Il y a énormément de commentaires sur les réseaux sociaux. Et quand on en discute avec les personnes de TF1, etc., ils vous disent déjà qu'il y a ce côté très régional qui compte. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce chauvinisme régional. Ils s'aperçoivent notamment que les audiences baissent après l'annonce des 15 Miss parce que, par exemple, notre région n'est pas là. Voilà. Donc, il y a vraiment ce chauvinisme. Et après, il y a aussi ce désir aussi, peut-être de regarder la télé. C'est un programme phare qu'on peut commenter avec ses amis, etc., quand on commence sur les réseaux sociaux. Donc, oui, c'est un programme plébiscité par les jeunes, ce qui est assez rare aujourd'hui. Hein.
Oui, un peu comme l'Eurovision, hein, j'imagine. Est-ce que ça coûte cher à organiser ?
Eh bien, ça coûte relativement cher. Ça coûte plus cher, en tout cas, qu'un prime classique type The Voice, etc., puisqu'on parle un peu plus de 2 millions d'euros. C'est ce que paye TF1. Oui, ça coûte cher à organiser parce que les décors, les costumes, etc. ne sont pas forcément réutilisés à la différence d'autres programmes. Donc, on ne peut pas les amortir sur plusieurs émissions.
2 millions, c'est un investissement, Marina. Mais est-ce que ça rapporte à Miss France et à TF1 ?
Ça rapporte, oui, mais on est loin des fantasmes. C'est-à-dire que ce n'est pas une machine à gros sous, en tout cas pour la production, pour Banijay. Par rapport à d'autres émissions, hein, Banijay, ils ont les émissions d'Hanouna, ils ont Koh-Lanta, etc. Donc, il y a des émissions beaucoup plus rentables que les Miss. Pour TF1, côté TF1, donc côté diffuseur, ça rapporte à peu près 2,5 millions de revenus publicitaires. Enfin, c'est un toit les chiffres de l'année dernière, de 2021, compilé par Publicis Media. Ça avait été une année exceptionnelle en termes d'audience à ce moment-là, bien évidemment. Ensuite, il faut ajouter les recettes des SMS surtaxés, puisque pour voter pendant le concours, on peut faire un SMS. Là, on parle de quelques centaines de milliers d'euros, a priori, et des licences qui sont partagées entre TF1 et Miss France. Mais là, ça serait relativement faible.
Cette année, l'élection se déroulait à Caen. Que payent les villes pour accueillir cet événement ?
Alors, ça a été encore cette année un sujet de discorde, hein, puisque quand même, Miss France, c'est le règne de la beauté, du rêve, etc., mais c'est aussi le règne des polémiques. Hein. Il y a quasiment pas une élection de Miss France, je pense, sans polémique, il faut le savoir. Et là encore, cette année, l'élection n'a pas dérogé à la règle. Et certains élus de l'opposition ont manifesté justement des inquiétudes par rapport au coût de la ville, en disant qu'en 2010, ça avait coûté à peu près 200 000 euros à la ville. Donc ça coûte quoi ? Ça coûte finalement la mise à disposition des gymnases, la location du Zénith de Caen, en l'occurrence, et selon la presse régionale, également les logements pour les Miss pendant le temps où elles sont à Caen. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça fait un peu scandale, c'est-à-dire que les élus d'opposition se posaient la question exactement combien ça allait coûter, et le maire leur a dit on le saura que dans quelques semaines.
Ouais, on en saura plus à ce moment-là, mais le maire de Montpellier, où se tenait l'élection de Miss France 2017, estimait à l'époque les frais d'accueil à 600 000 euros, dont un peu plus de la moitié à la charge de la commune, un chiffre qui ne tient pas compte des retombées médiatiques pour la commune.
Les filles, j'espère que vous avez passé une bonne journée. J'ai une petite surprise pour vous. On illumine l'hôtel de ville de Caen.
La femme moderne, c'est une femme forte qui défend de belles valeurs. Et aujourd'hui, en étant là, présente devant vous, j'incarne cette femme moderne qui montre à quel point nous allons de l'avant. Mille merci.
Merci beaucoup.
Merci.
En 2020, Amandine Petit, c'était Miss Normandie, est devenue Miss France 2021. J'incarne la femme moderne, voilà ce qu'elle disait. Le concours s'attire pourtant les foudres de certaines organisations. C'est vrai qu'à l'heure de MeToo, hein, ces concours de Miss ressemblent à une relique du passé. Oser le féminisme, par exemple, les juges datés et sexistes, cette association a acquis très remontée, Marina.
Très remontée, ces émissions qui ont attaqué devant les prud'hommes, hein, la société Miss France et la société de production, dans la mesure où ils estiment que ce concours véhicule des valeurs, en effet, de notre âge et complètement sexiste. Surtout, ils ont pris pour angle d'attente, finalement, les contrats de travail, en disant qu'il y avait discrimination à l'embauche, puisque vous, par exemple, Cédric, ou moi, désolé,
ah, moi, je suis un garçon,
ne peut pas
donc
participer
Miss France, c'est
à
sûr,
Miss France. Dans la mesure où on ne fait pas 1m70, on n'a plus l'âge, etc. Donc, il y a des éléments discriminants, selon elle, dans le concours. Et également, il y a des éléments qui ne devraient pas être dans les contrats. Par exemple, le fait de ne pas fumer en public ou de ne pas porter de tatouage. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a les pro-Miss France et les anti-Miss France. On voit vraiment ça. Par exemple, pas moins de deux ministres sont exprimés ces derniers jours sur le sujet. Alors, on avait Roselyne Bachelot qui trouvait ça sympathique, disait-elle. Moreno qui, au contraire, trouvait ça dépassé. Donc vraiment, il y a deux visions de la société derrière Miss France. C'est fou comme ça fait réagir. J'entendais encore que Valérie Pécresse en parlait aussi dernièrement de Miss France. Donc ça a vraiment un retentissement énorme.
Elisabeth Moreno, la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, qui s'interrogeait sur les règles du concours qu'elle qualifiait de has-been, réagissant ainsi à l'action engagée par Oser le féminisme devant les prud'hommes. Sachez que l'audience a été fixée en juin 2022. Marina, vous évoquiez aussi les propos de Valérie Pécresse, candidate Les Républicains à la présidentielle, qu'on entend ici interroger sur France 3 et pour qui Miss France est une certaine idée de la France.
Si être français, c'est ne plus avoir de sapin de Noël, c'est ne plus manger de foie gras, c'est ne plus avoir la chance d'élire Miss France et de voir des filles belles et intelligentes une fois par an.
Alors Marina, que répondent ces promoteurs aux attaques contre ce programme ?
Eh bien, elles répondent, je dis elles parce que c'est finalement deux femmes qui détiennent la position de Miss France. D'ailleurs, déjà, c'est révélateur, puisque c'est Alexia Laroche-Houbert et Sylvie Tellier, qui est une ancienne Miss pour sa part. Elles répondent finalement que les jeunes filles sont libres de participer, libres qu'il faut être finalement relativement courageuse pour se présenter devant des millions de téléspectateurs, pour risquer d'être huée ou supportée sur les réseaux sociaux, pour après répondre à des émissions de télévision, pour répondre à un Hanouna ou un Yann Barthès, c'est pas si facile que ça. Donc finalement, il faut quand même avoir un minimum de répondants, même beaucoup de répondants, je pense, pour pouvoir répondre après à des interviews. C'est extrêmement important. Elles disent aussi qu'elles représentent les jeunes femmes d'aujourd'hui. En général, elles sont diplômées, elles travaillent, elles ont envie, elles sont vraiment libres en fait de se présenter et libres de choisir leur voie. Et par exemple, Diane Lair, donc Miss France, qui a été couronnée samedi, disait « En tant que femme, j'ai envie de montrer qu'on peut être Miss et féministe. Pour moi, le féminisme, c'est de décider ce que je veux faire », avait-elle averti. Et quand on écoute Alexia Laroche-Houbert, c'est à peu près le même son de cloche. Elle le dit finalement, c'est un véritable ascenseur social. Les jeunes femmes qui participent sont autonomes, elles s'amusent, donc... Continuons ce concours.
Un dernier mot, Marina. Que deviennent Mister France et Mister National ? Je vous demande pas ça pour moi. Je crois que je suis plus non plus dans les critères de sélection.
Mister France existe toujours. Là aussi, il y a quelques années, il y avait eu des actions en justice sur les critères de sélection. Mister France existe toujours. Donc, a priori, désolé, Pierrick, vous ne pourrez pas y participer. Malheureusement, moi non plus. Mais vous pouvez avoir quand même le prix du meilleur podcast.
Le tendre, le dur, le macho, le musclé, le romantique, le ténébreux, le guéluron, l'efféminé, le rocker, le blasé, le dragueur, le baroudeur, le m'as-tu vu, le timide mais je me soigne, le plus beau que moi tu meurs, avaient à leurs pieds plus de 600 femmes.
Merci Marina Alcaraz, journaliste au service high-tech média des Échos, pour cette immersion chez les Miss. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Vous ne pourrez pas voter pour moi au concours de Mister France, mais n'hésitez pas en revanche à nous donner 5 étoiles si cette émission vous a plu.